France Culture, bienvenue à tous, il est midi et demi. Le journal, Thomas Cluzel, bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Certains se montrent plutôt sereins, d'autres s'inquiètent au contraire de faire cours à des élèves portant un masque toute la journée. Enseignants et professeurs faisaient ce matin leur pré-rentrée dans un contexte inédit.
Et dans votre journal également, Veolia à la conquête de Suez pour créer un géant de l'environnement.
Oui, la multinationale propose de racheter la majorité de la participation d'Engie dans le numéro 2 mondial de la gestion de l'eau et des déchets afin de former le champion français du secteur.
À l'étranger, direction tout d'abord le Liban.
À quelques heures de l'arrivée du président français Emmanuel Macron qui presse pour des réformes en profondeur, le pays doit se doter aujourd'hui d'un nouveau Premier ministre choisi par la classe politique traditionnelle. Au Monténégro, là-bas, le parti pro-occidental au pouvoir est sorti en tête hier des élections législatives, mais pourrait être évincé pour la première fois en 3 décennies si l'opposition parvenait à s'unir. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, aujourd'hui nous recevrons Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste au lendemain des universités d'été du parti. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table, deuxième partie.
Dans 2 jours s'ouvrira le procès des attentats de 2015, de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher et de Montrouge. 7 janvier 2015, mais aussi 18 mars 2020, en pleine épidémie, ce confinement annoncé. Quand est-ce qu'une histoire prend date? Quand est-ce que l'histoire fait date? C'est la question que nous poserons à notre invité, l'historien professeur au Collège de France, Patrick Boucheron, qui nous rejoindra donc dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. À la veille du retour en classe de quelques 12,5 millions d'élèves, et alors qu'enseignants et professeurs ont eux déjà retrouvé ce matin le chemin de leur école dans l'ombre du coronavirus, c'est peut dire que les questions ne manquent pas en cette pré-rentrée totalement inédite. Comment accueillir au mieux les enfants? Comment assurer le respect des mesures barrières en classe, mais aussi à la cantine ou dans la cour de récréation? Et puis aux incertitudes sanitaires s'ajoute un autre défi d'une ampleur là encore inédite, non seulement recréer chez les élèves des habitudes de travail totalement déstructuré depuis 6 mois, mais aussi rattraper le probable retard accumulé lors du confinement. Bref, un programme en tout point vertigineux. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Vous avez assisté ce matin, Hakim, à la pré-rentrée du collège Théodore Monod à Gagny dans le 93. Dans quel état d'esprit étaient les professeurs que vous avez rencontrés, Hakim?
Alors derrière les masques de rigueur, hein, la cinquantaine d'enseignants s'est retrouvée, il faut le dire, avec beaucoup de joie. Les enseignants qui attendent la reprise demain et les retrouvailles avec leurs élèves avec impatience, même s'ils savent qu'ils vont devoir s'adapter sur le plan sanitaire et pédagogique, car au collège Théodore Monod de Gagny, comme dans de nombreux établissements en France, les élèves n'ont eu que 2 semaines de cours en présentiel en juin. Résultat, le niveau risque d'être hétérogène malgré les cours à distance. Christophe Hervieux, professeur d'anglais.
La période de confinement a amené de très grosses différences chez les élèves parce que certains ont pu suivre tous les cours à distance parce qu'ils étaient équipés, parce qu'ils avaient la motivation, parce qu'ils avaient aussi le suivi à la maison. Mais on a vu aussi, malheureusement, qu'une grande partie des élèves que nous avions soit ne se connectaient pas, soit n'étaient pas capables de suivre la somme de travail qu'on pouvait leur donner. Et ça, c'est vrai que ce sera vraiment un gros défi de rattraper justement ces élèves-là qui ont peut-être perdu pied pendant la période de confinement et qu'il va absolument falloir ramener sur les bons rails.
Au niveau sanitaire, si le masque sera obligatoire pour tout le monde à partir de 11 ans, le principal a décidé de mettre en place le non-brassage des élèves. Ils resteront donc toujours dans la même classe, ce sont les professeurs qui se déplaceront, sauf pour les cours de musique et de sport. Quant aux récréations, elles seront légèrement décalées afin de se faire en niveau de tranche d'âge. Par exemple, les 6e ne seront pas à la récré en même temps que les 5e. Demain, ce sont au total 600 élèves qui sont attendus au collège Théodore Monod, de Gagny.
Merci Hakim Kasmi. Puis j'ajoute que c'est dans ce contexte qu'hier Jean-Michel Blanquer a lui annoncé dans un entretien au JDD le lancement d'un Grenelle des professeurs. L'objectif, revaloriser le salaire des enseignants et leurs conditions de travail. Pour cela, le ministre de l'Éducation a obtenu 400 millions d'euros supplémentaires. Un budget plus modeste en réalité que les 500 millions qui devaient initialement y être consacrés. Alors évidemment, parmi les questions que pose cette rentrée scolaire, on trouve notamment celle du lien entre le Covid-19 et les les enfants. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement a annoncé, c'était la semaine dernière, le protocole sanitaire dans les écoles, en particulier le port du masque dès 11 ans. Mais en l'occurrence, sait-on, Tara, aujourd'hui, si les enfants sont contagieux?
Pas de réel consensus à ce propos, Thomas. Certains affirment qu'ils ne sont pas aussi contagieux que les adultes. Ainsi, l'Institut Pasteur a mené une étude fin avril autour des écoles primaires de Crépy-en-Valois, commune particulièrement touchée. Alors qu'au moins un cas d'infection a été relevé dans 3 établissements avant le confinement, il n'y a eu aucune transmission à un autre élève ni à un autre adulte dans ces écoles. Autre enseignement, alors que 10% des adultes testés à Crépy-en-Valois ont développé des formes asymptomatiques, il y avait 41% de cas asymptomatiques chez les enfants. Bref, ils ont été contaminés à hauteur de 8,8% contre 10,4% pour l'ensemble de la cohorte de Crépy-en-Valois, mais ils n'ont pas été contagieux au sein des écoles et ils sont très asymptomatiques. Autre étude à l'appui de cette thèse, dans le cluster des contamines montjois dans les Alpes en France, l'enfant de 9 ans n'a contaminé aucune personne alors qu'il a été en contact avec 172 individus. Mais une étude réalisée en Allemagne a commencé à semer le trouble, réalisée par Christian Drosten, le co-découvreur du SRAS en 2003. Cette étude montre que les enfants atteints ont une charge virale comparable à celle des adultes. Pire, si on peut dire, une autre étude menée par des chercheurs de Chicago en mars-avril dernier sur 145 enfants montre que dans les voies respiratoires des moins de 5 ans, on trouve 10 à 100 fois plus de matériel génétique de virus SARS-CoV-2 que chez les plus grands. Mais peut-on en conclure qu'ils sont plus contagieux? Non, estime notamment l'épidémiologiste Arnaud Fontanet ou le pédiatre Robert Cohen, qui est vice-président de la Société française de pédiatrie. Comme les enfants sont très asymptomatiques, ils toussent peu et transmettent sans doute peu leur virus. Empiriquement, en tout cas, on n'a pas vu de cluster dans les crèches ou des écoles primaires. À noter que chez les adolescents, la situation se rapproche plus de celle des adultes.
Merci Tara Schlegel. Le suspense est a priori inexistant pour l'enseigne d'ameublement en redressement judiciaire Alinéa. Le tribunal de commerce de Marseille doit examiner aujourd'hui la seule offre de reprise partielle actuellement sur la table, en l'occurrence celle des propres actionnaires de l'entreprise. Celle-ci permettrait certes d'éviter la liquidation et la disparition de la marque, mais au prix d'un régime sévère. Seuls 9 des 26 magasins sont en effet visés dans le dossier de reprise, ce qui signifierait à terme 1 millier de licenciements. Quand le géant du traitement de l'eau et des déchets, Veolia, ambitionne de constituer rien de moins qu'un super champion mondial, la multinationale française a remis hier à Engie une offre ferme à près de 3 milliards d'euros en vue de lui racheter la quasi-totalité de sa participation dans son concurrent Suez. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors pour l'heure, rien n'est fait, d'autant que si les deux parties venaient à tomber d'accord, la transaction devra encore obtenir l'aval des autorités de la concurrence. Et puis surtout Annabelle, la réunion donc du numéro 1 et du numéro 2 mondial du secteur fait l'objet de spéculations régulières qui d'ailleurs, on s'en souvient, avaient déjà avorté, c'était il y a quelques années.
Alors Veolia souhaite acquérir en effet depuis plus de 10 ans son concurrent Suez. Il est passé hier soir à l'offensive en acquérant la quasi-totalité des parts qu'Engie possède dans cette multinationale. Ce n'est pas encore une OPA. Il faut que le conseil d'administration d'Engie et l'État actionnaire acceptent cette offre. Et ce n'est qu'ensuite que Veolia déposera une offre publique d'acquisition volontaire du solde des actions de Suez, a indiqué donc hier soir son PDG Antoine Frérot. Le Premier ministre Jean Castex en a été informé, ainsi que le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et du côté du gouvernement, pas d'hostilité. Deux conditions tout de même, sauvegarder l'emploi et garder les actifs stratégique dans l'Hexagone. Du côté de Suez, la pilule passe un peu moins bien. Son président Philippe Varin n'y a jamais été favorable et n'a pas été prévenu. Un joli coup, dit-on dans le milieu économique. Le grand chantier de l'environnement est ouvert et pour rafler les marchés, il faut une taille critique suffisamment importante. Bref, faire le poids face aux multiples acteurs chinois déjà bien positionnés. La fusion donnerait donc à la France une chance d'exister sur ce marché. J'ai l'ambition de créer le groupe d'après pour le monde d'après, a déclaré le PDG de Veolia, Antoine Frérot. A noter que l'opération, si elle réussit et obtient en effet les autorisations des autorités de la concurrence, eh bien elle prendra plus d'un an, voire 18 mois pour être montée.
Merci Annabelle Grelier. après la mort par balle en début de semaine dernière de deux personnes lors d'affrontements à Kenosha dans le Wisconsin. Voilà qu'un nouveau drame est venu ce week-end couronner une semaine ponctuée de violence dans les rues américaines. Samedi, un homme est mort dans la ville de Portland en marge de heurts entre manifestants antiracistes et pro-Trump, et ce, dans des circonstances qui restent encore confuses. Tout juste sait-on que la victime portait une casquette à l'effigie d'un groupe local d'extrême droite. L'auteur du coup de feu mortel n'a lui toujours pas été identifié. Alors aussitôt, Donald Trump a réagi à cette tragédie à coups de dizaines de tweets pour critiquer l'action du maire démocrate de Portland et son refus d'appeler en renfort la garde nationale dans sa ville. Quant à son adversaire dans la course à la Maison Blanche, Joe Biden, il accuse le chef de l'État d'encourager la violence ou quand la sécurité devient l'un des axes de la campagne pour l'élection présidentielle. Et puis dans le même temps, les États-Unis ont franchi une nouvelle étape hier avec 6 millions de cas de contamination au coronavirus enregistrés, soit près d'un quart du nombre total de personnes infectées dans le monde. Près d'un mois après le cataclysme qui avait été provoqué par l'explosion au port de Beyrouth, suivi de la démission du cabinet Hassan Diab, des consultations parlementaires se tenaient ce matin au Liban pour tenter de désigner un nouveau chef de gouvernement. Et comme attendu, eh bien, c'est un ancien professeur d'université devenu ambassadeur du Liban à Berlin, Mustapha Adib, qui a été désigné ce matin. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place à Beyrouth. Alors, Mustapha Adib avait reçu le soutien des principales formations politiques de son pays. En ce sens, sa désignation ce matin n'est pas véritablement une surprise. En revanche, cet ex-conseiller de l'ancien Premier ministre Mikati n'est pas apprécié par le mouvement de contestation populaire qui exige, rappelons-le, le départ de la classe politique accusée de négligence, de corruption. Dans ces conditions, Christian, est-il aujourd'hui l'homme à même de mettre à fin à l'instabilité chronique qui déchire le Liban ?
Vous savez, Thomas, en ce moment à Beyrouth, il y a peu d'hommes politiques populaires, c'est une espèce rare. Alors Mustapha Adib, 48 ans, sera-t-il l'homme de la transition vers une refonte du système politique libanais ? En tout cas, dans son CV, il présente beaucoup d'avantages et de qualités. D'abord, il est peu connu du grand public, il cumule une triple expérience. D'abord, celle de la diplomatie internationale. Depuis 2013, il est ambassadeur du Liban à Berlin. On dit qu'il entretient d'excellentes relations avec la chancelière Angela Merkel. Il est francophone et fait partie des noms suggérés par les aux responsables libanais. Ensuite, Mustapha Adib connaît bien les rouages de l'État puisqu'il a longtemps été le bras droit de Najib Mikati, un des poids lourds sunnites de la politique libanaise lorsque celui-ci était Premier ministre. Enfin, il connaît bien les coulisses du monde économique et financier. Dans le contexte actuel, il apparaît donc comme une personnalité consensuelle qui va être adoubée par le Parlement. Mais sa marge de manœuvre sera forcément étroite. Il devra naviguer entre la pression de la rue libanaise, celle de la communauté internationale et celle des partis traditionnels qui ne veulent pas lâcher leur influence. L'un de ses premiers tests politiques sera de composer une équipe gouvernementale crédible, capable de gérer l'urgence de la crise économique et sanitaire, mais aussi d'entamer des réformes structurelles, ce qui n'a jamais été fait. Mustapha Adib aura enfin la lourde mission de gérer l'exécutif libanais jusqu'aux prochaines élections législatives, d'ici 1 à 2 ans. Bref, un programme pour le moins chargé.
Merci Christian Chéneau en direct de Beyrouth. L'opposition serait-elle en train de faire trembler le parti au pouvoir au Monténégro? Selon les résultats officiels publiés ce matin par la commission électorale, le Parti démocratique des socialistes qui dirige le pays quasi sans discontinuer depuis 30 ans a obtenu hier 35% des voix aux élections législatives. Or c'est non seulement son plus mauvais score depuis l'indépendance, mais surtout il se retrouve désormais talonné par son principal rival, une coalition pro-serbe qui recueille elle 32,5% des suffrages. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Concrètement, cela signifie que si tous les partis de l'opposition concluaient à présent une alliance, eh bien le DPS pourrait potentiellement perdre le pouvoir, ce qui représenterait évidemment, Louise, un véritable séisme politique.
Et oui, peut-être la fin d'un règne sans partage, celui de Milo Djukanovic, 58 ans, 4 fois Premier ministre et 2 fois président de cette petite nation adriatique de 620 000 habitants, pays le moins peuplé des Balkans, indépendant de la Serbie depuis 2006, entré dans l'OTAN 11 ans plus tard. le Monténégro frappe désormais à la porte de l'Union européenne. Il est le candidat le plus avancé dans les négociations d'adhésion à l'UE. Orientation pro-européenne défendue par Djukanovic, mais contestée par l'opposition pro-serbe qui menace désormais le parti présidentiel. Elle réclame, cette opposition, un raffermissement des liens avec Belgrade et Moscou. Revendication identitaire et politique sur fond de querelles religieuses.
Une polémique, Louise, qui a d'ailleurs profondément marqué la campagne électorale.
Oui, campagne émaillée de processions monstres menées par des dignitaires orthodoxes et soutenues par l'opposition pro-serbe. À l'origine, une loi sur la liberté de culte adoptée fin 2019. Elle ouvre la voie à une prise de contrôle par l'État de centaines d'églises et de monastères gérés par l'église orthodoxe serbe, dont le siège est à Belgrade, mais qui est dominante au Monténégro, où près de 30% de la population se déclare serbe.
Ah, et puis il ne faudrait pas oublier également, Louise, la lassitude évidemment face à un pouvoir accusé de corruption.
Oui, c'est l'autre angle d'attaque contre Milo Djukanovic, réformiste dynamique, disent ses amis, autocrate corrompu, dénonce ses ennemis. Il est accusé de lien avec le crime organisé, de captation des ressources de l'État et d'entrave à l'État de droit, climat politique encore alourdi par la situation économique. Dans un pays où le tourisme frappé par la pandémie génère près du quart du PIB, où le chômage touche 18% de la population active, où le salaire moyen ne dépasse pas 520 euros mensuels et où les jeunes émigrent massivement comme ailleurs en Europe centrale et orientale. Situation très délicate donc pour le président, dont le mandat court certes jusqu'à 2023, mais qui pourrait devoir nommer un gouvernement d'opposition si bien sûr cette opposition parvient à s'unir, des nationalistes pro-serbes jusqu'au parti noir et blanc d'inspiration civique et libérale.
Merci Louise Baudet. En Biélorussie, un mois après une élection présidentielle jugée frauduleuse, la capitale Minsk a connu hier un nouveau dimanche de défilé sans qu'une percée de l'opposition se dessine. Ce matin, le président Loukachenko a bien évoqué l'idée d'un référendum constitutionnel pour apaiser le mouvement de contestation, sans toutefois en préciser les modalités ni le calendrier et encore moins le contenu. Deux semaines après la visite historique du secrétaire américain à la santé, une délégation tchèque avec à sa tête le président du Sénat est arrivée hier à Taïwan, et ce en dépit donc des efforts de Pékin pour isoler l'île du reste du monde. Rappelons que la Chine continue en effet de considérer l'archipel démocratique comme partie intégrante de son territoire. Les précisions à Taipei de notre correspondant Adrien Simor.
Le gouvernement taïwanais a mis les petits plats dans les grands pour accueillir le président du Sénat tchèque et son imposante délégation arrivée hier à Taipei. L'épisode est historique, Milos Vichtrisil est une des personnalités politiques européennes de plus haut rang jamais venue à Taïwan. La Chine considère en effet l'archipel démocratique comme une de ses provinces et fait habituellement pression pour empêcher la venue de hauts dignitaires étrangers. Le président du Sénat tchèque aura choisi de passer outre ces menaces, une manière pour cet homme politique d'opposition de se démarquer du président tchèque Milos Zeman, car en République tchèque l'exemple taïwanais résonne aussi avec l'histoire de cet ancien pays satellite de l'URSS. La réponse de la Chine ne s'est pas fait attendre, le chef de la diplomatie chinoise a agité aujourd'hui le spectre de sanctions. Le président du Sénat tchèque s'est défendu de toute provocation, mettant en avant sa liberté de pouvoir visiter les pays qu'il souhaite. Après la venue du secrétaire américain à la santé au début du mois d'août, c'est la deuxième fois en quelques semaines qu'un haut responsable politique étranger se rend à Taïwan. Des visites d'une importance capitale pour la petite démocratie qui craint plus que jamais de devenir le prochain Hong Kong.
L'invité de la rédaction à présent aujourd'hui, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors, vous teniez ce week-end vos universités d'été à Blois, où les représentants d'Europe Écologie Les Verts étaient d'ailleurs venus assez nombreux, et pour cause, puisque pour éviter un nouveau duel, Emmanuel Macron-Marine Le Pen à la prochaine présidentielle, vous prenez, Olivier Faure, aujourd'hui un candidat unique de la gauche. Et ce faisant, est-ce qu'au-delà du rapprochement que vous appelez de vos voeux avec les écologistes, l'union pourrait être élargie aux insoumis, le cas échéant, Jean-Luc Mélenchon peut-il à vos yeux incarner ce candidat commun ?
Moi j'aimerais qu'on arrête de se poser la question des hommes avant de se poser la question du projet. Il n'y aura pas de candidat commun s'il n'y a pas de projet commun. Et donc, j'entends qu'il y a un nombre de gens aujourd'hui qui disent « la République, c'est moi, le projet, c'est moi, le rassemblement, c'est moi, ou derrière moi ». Mais non, ça marche pas comme ça. La réalité, c'est qu'il faut, au contraire, avoir une démarche, progressive, une démarche de coalition de projets où personne n'a à se renier, mais où chacun apporte ce qu'il souhaite apporter, et ensuite qu'il y ait une discussion pour permettre de bâtir un projet commun pour les prochaines années, et qui soit non seulement en mesure de nous faire gagner, mais ensuite de nous faire gouverner et de nous faire réussir. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que il suffit de gagner une élection présidentielle et des législatives pour transformer le pays. Y compris Emmanuel Macron l'apprend à ses dépens depuis de longs mois. Il a été celui qui était le président jupitérien avec une majorité aux ordres. Et pourtant, il a eu les gilets jaunes. Et pourtant, il a eu les manifestations les plus longues de l'histoire sociale de notre pays sur les retraites. Et il a été obligé de renoncer à sa réforme de l'assurance chômage. C'est bien la preuve que pour transformer ce pays, et il faut le transformer, il faut une république plus sociale, plus écologique, plus démocratique, plus féministe. Ça suppose d'entraîner, et pour entraîner, il faut fédérer.
Question de Stéphane
Olivier
Robert.
Fort, on vous dites que vous en avez marre de ceux qui disent c'est moi, c'est mon tour. On a eu l'impression quand même, ce week-end à Blois, à l'université d'été du PS, que les écologistes, qui étaient très nombreux à cette université d'été à venir vous rendre visite, semblaient dire bah, « c'est nous, c'est notre tour ». On a vu Yannick Jadot, Éric Piolle, Julien Bayou, David Cormand, Cécile Duflot même était là, quelques maires aussi qui ont été élus récemment au municipal, et ils ont fait... est-ce qu'il y avait une opération, est-ce qu'il n'y avait pas une opération séduction, et comment vous avez... pris cette opération séduction dans la direction du PS.
Et c'est nous qui les avons invités. Et moi, je souhaite que les échanges soient les plus nombreux possibles, de la meilleure qualité possible, parce qu'on ne peut pas réaliser un projet commun si on ne se connaît pas, si on ne se parle pas, si on ne passe pas par-dessus les cicatrices, les brûlures de l'histoire. Et donc, il faut évidemment qu'on puisse continuer à se parler. Après, personne ne nie l'importance du sujet écologique aujourd'hui, mais moi, ce que je dis à toutes et à tous, c'est que il ne faut pas chercher à dire que quelqu'un, enfin que quiconque pliera tous les autres à ses désirs. Ça n'existera pas. Il faut, au contraire, que nous cherchions à bâtir un projet commun qui fera que le candidat ne sera ni socialiste, ni écologiste, ni insoumis, ni communiste, ni radical, ni génération. Il sera le candidat de tout cela à la fois, ou il ne sera pas. Et s'il n'est pas ça, eh bien, il ne gagnera pas. C'est aussi simple que ça. Et donc, moi, j'aimerais que tous ces gens qui nous disent en permanence « Emmanuel Macron, c'est l'horreur, etc. Ben, » très bien. Moi aussi, je suis pour une alternative à Emmanuel Macron. Mais ça suppose dans ces cas-là qu'on fasse pas tout pour le faire réélire. Or, aujourd'hui, tous ceux qui s'autoproclament candidats et qui disent « ce sera derrière moi ou le chaos », mais ils obtiendront quoi ? Ils obtiendront le chaos. Et ce sera l'impossibilité d'avoir la victoire. Et le risque que nous prenons toutes et tous, c'est que si l'espérance ne renaît pas côté gauche et écologiste, eh bien c'est que même y compris la colère l'emporte et que ce soit Marine Le Pen qui devienne notre présidente. Et dans ces cas, ce sera une affaire autrement plus compliquée. Et qu'irons-nous expliquer ? Que parce que nous avions les uns et les autres une envie brûlante de devenir président, eh bien ça passait devant toute forme d'intérêt général ? Je crois tout l'inverse.
Est-ce que tout le monde est sur cette ligne-là aujourd'hui au PS ? On a vu François Hollande prendre la parole ce week-end pour dire à quel point il n'était pas d'accord avec vous et dire qu'il fallait que le PS reste cette force centrale autour de laquelle se fédère la gauche. François Rebsamen également a pris la parole. Tout le monde est sur votre ligne aujourd'hui au Parti Socialiste ?
Écoutez, le rassemblement, c'est toujours le chemin le plus difficile. Il n'est pas pavé de roses. En tout cas, je sais qu'il y a encore beaucoup d'épines à enlever avant d'y arriver. J'ai entendu ce que disait François Hollande, et je l'ai entendu avec tristesse, parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas forcément le plus qualifié pour expliquer au Parti Socialiste ce qu'il avait à faire. Je ne suis pas celui qui a pris le Parti Socialiste à 30%, je l'ai pris à 6%. Ce n'est pas moi qui l'ai amené à 6%. Moi, je l'ai amené au municipal, à nouveau, à conquérir des villes. Et donc, je pense que, en la matière, il faut que, pour être crédible dans la vie politique, il faut que chacun soit aussi lucide sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a apporté, et sur ce qu'il n'a pas fait et ce qu'il n'a pas apporté. Et donc, aujourd'hui, il y a une gauche qui se reconstruit. Elle est effectivement certainement plus à gauche, certainement plus écologiste, aussi beaucoup plus féministe. Et je crois que c'est important que chacun, à sa place, y contribue, plutôt que de chercher au contraire à chaque fois à envoyer des cartes postales, considérer que là encore, il est toujours le mieux placé pour, etc. Moi, j'aime les gens qui contribuent au débat collectif et qui contribuent aussi à ce que leurs idées progressent et non pas se comporter en simple frondeurs qui sont là pour en permanence. Enfin voilà, il n'y a peut-être pas d'âge pour devenir frondeur. Je suis désolé que je ne pense pas que ce soit la place d'un ancien président de la République que d'entrer dans une fronde.
Il y a une étude de l'IFOP, de l'Institut IFOP, qui est parue le 23 juillet sur le positionnement politique des Français et qui disait que 13% des personnes interrogées se disaient à gauche, 32% au centre, 39% à droite. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'on peut parler d'une droitisation du pays?
Non, on ne peut pas parler... Enfin, bien sûr, ça m'inquiète. On ne peut pas parler de droitisation. Je crois que dans ce sondage, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se placent dans un espèce de grand centre parce que l'espérance n'est pas... Enfin, comment voulez-vous aujourd'hui que des gens espèrent à gauche quand ils ont dans le même week-end tous ces éléphants du Parti Socialiste ou d'ailleurs qui tous se déclarent c'est moi ou personne. Bah, forcément, ils se disent ça va pas marcher. Comment voulez-vous... Enfin, pour moi, la présidentielle, tous les 5 ans, c'est quel est le bus qu'on prend, avec qui et qui nous emmène et qui le conduit. Vous arrivez devant le bus, vous voyez un bus qui est vert, rose, rouge, enfin qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous vous dites, c'est le plus beau, c'est mon bus, je vais être dans celui-là. Et puis vous rentrez et là vous regardez et vous dites, ah, il y a 5 chauffeurs qui se disputent le volant. Eh bien, je pense que au prochain virage, on n'ira pas très loin. Alors vous descendez de ce bus et vous dites, ben quel est le bus d'à côté, quel est celui moins attrayant, peut-être bleu pâle, etc. Et vous vous dites, ben peut-être que c'est en celui-là que je vais monter parce que au moins j'ai une chance de faire le virage prochain. C'est ce qui s'est passé à la dernière présidentielle. Et donc moi je ne veux pas reproduire à l'infini ce mécanisme qui fait que nous donnons la victoire, parce que c'est nous qui l'offrons la victoire à nos opposants. Et aujourd'hui, s'il y a si peu de gens pour espérer avec la gauche et l'écologie, c'est pas que le message que nous portons soit périmé. Regardez ce qui s'est passé avec la crise du Covid. Tout ce que nous portons a été réhabilité. Tout ce que les libéraux ont cherché à détruire a été réhabilité. Le service public, l'État social, l'État-providence, y compris la nécessité écologique, la nécessité de réduire les inégalités, tout ça a été remis sur le devant de la scène. Mais nous ne sommes pas encore aujourd'hui en capacité à le porter parce que nous sommes trop divisés.
On l'a bien compris. Merci Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Stéphane Robert ainsi qu'à François Rivalan pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi instable sur la majeure partie du pays, à l'exception du Languedoc-Roussillon et de la région PACA qui bénéficieront d'un soleil généreux. Quant aux températures, elles afficheront entre 17 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.